Où vivrons-nous demain ? Par Jean-Pierre Astrampe. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons reparler du centre-ville, qui était le sujet des deux émissions précédentes. Et comme je l'avais déjà annoncé, nous allons parler du commerce, qui est un élément important de la vie du centre-ville, mais qui est aussi un élément important de la vie tout court. Alors, nous sommes dans une opposition bien connue entre petit commerce et grande surface, qui est une guerre rituelle, qui est pour beaucoup le combat du bien et du mal, avec certainement beaucoup d'hypocrisie derrière des positions qui sont assez caricaturales. Donc, je voudrais parler de ce problème et voir que les choses sont un peu plus complexes que de dire les grandes surfaces ont tué les centres et ont tué le petit commerce en ville. Comme j'ai pu le dire les fois précédentes, mes critiques sur le centre-ville qui a été une invention récente et qui aussi n'a qu'une faible partie de la population de notre pays, et nous sommes dans des lectures qui sont assez faussées des rapports à la fois de territoire et à la fois de démographie des populations et certainement aussi des disparités économiques qui sont infiniment plus complexes que les dualités centre-ville et périphérie. Donc la première chose que l'on pourrait dire, c'est que il y a des changements au cours du dernier siècle sur les surfaces bâties. Alors, le problème du logement, par exemple. On avait avant des grandes disparités dans les sociétés plus anciennes, dans l'Ancien Régime, même les sociétés du XIXe siècle, entre les plus riches, qui habitaient des châteaux, des très grandes demeures, avec des grands domestiques. On était sur des milliers de mètres carrés habitables, et puis il y avait les classes intermédiaires, la bourgeoisie, puis les classes intermédiaires, et puis les ouvriers, et les classes pauvres qui étaient, on peut dire, dans une densité forte d'entassement. Donc on avait des disparités qui aujourd'hui se sont énormément réduites. La différence entre les riches et les pauvres, et vous le savez bien, ça tient au quartier, malgré toutes les injonctions de vivre ensemble, et c'est la place, l'endroit où on habite qui est plus important aujourd'hui que la forme du bâtiment. La hiérarchie des villes qui constitue notre patrimoine était essentiellement marquée justement par toutes ces différenciations sociales qui aujourd'hui ont tendance à se gommer. Et les appartements que l'on appelle HLM, les appartements donc pour les classes moyennes ou les classes moyennes inférieures, sont à peu près sur un plan qualitatif et sur un plan de surface semblables aux appartements, par exemple, des centres-villes pour les catégories riches et les catégories supérieures. Donc, on peut dire qu'il y a une homogénéisation et il n'y a pas non plus de grandes différences au niveau des surfaces. C'est-à-dire qu'on n'a pas une augmentation globale de la surface des logements. Alors, oui, la grande différence avec le temps passé ou les époques précédentes, la grande différence, elle est sur les services. Alors, ce n'est pas qu'il n'existait pas de services avant, mais aujourd'hui, nous avons une quantité de services d'abord qui ont été nouveaux, créés, et également qui ont eu une croissance très importante. Alors, c'est très curieux parce qu'il existe assez peu d'études, ou peut-être pas du tout. C'est des choses que j'avais fait travailler à mes étudiants, de regarder la progression de surface dans les bâtiments public, les bâtiments de service. Donc, les bâtiments publics, c'est les bâtiments d'administration, c'est les mairies, c'est les préfectures, c'est également tout ce qui va être régalien, la police, la gendarmerie, les commissariats, et également l'éducation, le sport, les loisirs, les musées, etc. Bon, et on se rend compte que il y a, ne serait-ce que par exemple par rapport aux universités, tout ce qui était laboratoire qui n'existait pas avant. En fait, il y a également dans le domaine des sports, les salles de sport n'existaient pas, les salles de musculation, de remise en forme. Enfin, la liste serait trop longue pour en parler. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une inflation à la fois en nombre et aussi une explosion en surface. Par exemple, la surface du même établissement scolaire, qui serait par exemple la maternelle, l'école primaire ou les lycées, on se rend compte qu'aujourd'hui, et c'est certainement une très bonne chose, mais les surfaces ont doublé, triplé, ne serait-ce que pour inclure des gymnases, des salles d'activité, etc. Donc, vous, ne serait-ce que l'administration, ou ce qu'on appelle les CDI, les bibliothèques. Donc, cette inflation est très importante. Et quand on parle de densité, on ne parle que de logement et on exclut tous ces problèmes-là. Alors, vous allez voir où je voulais en venir. C'était justement ce non-dit sur les services et on parle toujours de densité de l'habitat. Alors, il y a une chose qui est assez importante et qui est négligée dans cette injonction de « il faut habiter dense ». Alors évidemment, toutes les raisons sont bonnes pour à la fois sur l'économie des terrains, sauver la planète, etc. Mais il faut rappeler une chose assez simple, c'est que autant la densité des services peut être augmenté. En gros, on peut rapprocher les éléments de service qui sont les administrations, les laboratoires, on peut les monter en hauteur, les bureaux par exemple. La chose est plus difficile à faire pour les habitations, ne serait-ce que pour respecter la réglementation, qui est la réglementation de l'ensoleillement, où on se rend compte que un immeuble ne doit pas faire ombre à un autre immeuble et que la densité, au final, entre les maisons d'habitation, les immeubles, par exemple les petits immeubles de 3 ou 4 étages ou des immeubles tours, on se retrouve à peu près à des densités semblables, ce qui surprend tout le monde. Évidemment, je ne parle pas des grands lotissements avec des terrains de plusieurs milliers de mètres carrés, mais en tout cas des lotissements denses. On a à peu près du 30 logements à l'hectare, c'est à peu près ce que l'on a dans à peu près tous les types de constructions, ne serait-ce que pour les problèmes d'accès, le parking et ces problèmes d'ensoleillement entre bâtiments. Donc, ce problème de la densité des logements est un faux problème. Par contre, le problème de la densité des services est un problème qui n'est absolument pas traité. Donc, ce que je voulais montrer dans ces surfaces de territoire, c'était le parallèle que je faisais entre à la fois les erreurs sur la démographie, de savoir que 70% des habitants habiteraient dans les villes quand je vous disais que nous n'avons que 5% d'habitation, bon, même s'il y a des gens qui viennent y travailler. Même si ce chiffre double, on est toujours à un chiffre extrêmement minoritaire par rapport à l'ensemble de la population. Mais il en est de même du territoire où le mot ville a une valeur extrêmement changeante parce qu'on traite du centre-ville, par exemple, le centre-ville qui va être, lui, soit lié aux réglementations politiques, c'est-à-dire enfin, à la règle politique de la commune, donc qui va déterminer une commune, et ça peut tellement varier. Par exemple, la ville de Paris, c'est le Paris, disons, intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur des boulevards, et puis on passe à d'autres communes à l'extérieur, même si on a une agglomération constante. À Toulouse, par exemple, on a la zone nord, qui est une zone qui reste encore en grande partie agricole et qui fait partie de la commune de Toulouse. Donc ce sont des notions extrêmement complexes. entre la ville administrative, politique, la ville morphologique de la forme, c'est-à-dire la forme de l'agglomération au sens littéral du terme, la forme agglomérée, et puis ce que l'on appelle aujourd'hui, et c'est une notion très floue, qui est l'aire urbaine, qui est une notion économique, alors dont la définition varie suivant les humeurs des statistiques de l'INSEE. En fait, c'est les dépendances économiques que l'on peut avoir entre une ville et son territoire. Alors là, on arrive effectivement à une grande extension des zones urbaines où on englobe, par exemple, à Toulouse, on englobe le Lauragais, qui est en fait une terre agricole et une des premières terres même de production de céréales au niveau mondial, et qui est une grande partie qui est considérée en zone urbaine. Mais c'est valable pour à peu près toutes les villes, sauf les villes qui sont comme Marseille, adossées à la mer, où effectivement il y a une relation où on ne peut pas élargir la zone urbaine. Alors, cette erreur sur les définitions est absolument valable dans le monde entier, et il y a des travaux de géographes, notamment un géographe de l'université d'Aix-la-Provence qui a fait un comparatif des grandes villes mondiales, où on se rend compte que, par exemple, ce qui est considéré comme la plus grande ville du monde en Chine, en fait, c'est une ville-territoire de la surface de l'Autriche, simplement. C'est une notion administrative qui inclut des forêts, des lacs et des terres agricoles. Donc, on est bien loin de la ville agglomérée. Donc, tous les chiffres qui sont donnés sur les grandes villes mondiales sont des chiffres qui demandent à être revus de près sous, effectivement, les trois critères que je rappelle. C'est la ville politique administrative, la ville agglomérée, la forme de la ville, et puis cette aire urbaine qui est une notion extrêmement floue et contingente. Alors nous avons également, et je vais développer la relation avec ce qui est dénoncé dans les périphéries où on a des zones industrielles et des zones d'entrepôts. Et après la pause musicale, je vais développer ce problème central qui me paraît être un problème victimaire, l'entrepôt, même si le mot n'a pas l'air d'être particulièrement n'amène pas à beaucoup de rêveries. We'll be right back. Oui, alors donc, je vous disais que j'allais vous parler de l'entrepôt, même si ce mot ne fait pas rêver, mais c'est quelque chose qui est, par rapport au commerce, puisque c'était le sujet d'aujourd'hui, avec les digressions sur les surfaces que j'ai faites, le problème des grandes surfaces, le problème du petit commerce, c'est l'approvisionnement. Donc aujourd'hui, on ne voit que des marchés, par exemple, et où, par exemple, le marché de plein vent que l'on a, le marché Cristal à Toulouse, mais qui existe dans toutes les villes. Et je pense qu'il y a un mythe autour de ça, de penser que c'est toute l'année des petits producteurs qui viennent déposer sur des étals des fruits, des légumes tout au long de l'année, ce qui est quand même une aberration, puisque on sait que pendant 6 mois de l'année, il n'y a pas de production à la fois ni de légumes ni de fruits, et que tous ces commerçants tout à fait respectables vont chercher au marché gare leur approvisionnement, à part une infime minorité de producteurs directs. Donc là, je pense qu'il y a quand même une grande hypocrisie de notre époque, ou une méconnaissance, je ne sais pas comment on peut dire, de ne pas penser qu'il y a une centralisation avec ces marchés-gares qui sont des hubs, qui sont des plateformes avec des arrivages qui arrivent de Hollande, qui arrivent d'Afrique, qui arrivent d'Espagne, et que les oranges, les bananes, mais c'est pareil pour les tomates, et sans parler des fameuses fraises ou les fameuses cerises que M. Juppé ne voulait pas manger en hiver, c'est à peu près valable pour tous les légumes, parce que j'entendais l'autre jour à la radio que la pomme était un fruit de saison de l'hiver, mais c'était assez sidérant. Les pommes, c'est actuellement qu'on les récolte, et puis elles doivent traverser l'hiver. Elles traversent l'hiver comment ? Ben, elles traversent l'hiver dans des grands entrepôts frigorifiques, et c'est valable pour énormément de fruits et légumes, sans parler des fruits et légumes que l'on croit de saison, qui sont les bananes et les oranges ou les mandarines. Bon, tout ça est assez sidérant, mais enfin, mon propos n'est pas celui-là. Mon propos de dire, c'est qu'il y a une nécessité d'entrepôt. Donc, ces entrepôts qui peuvent être frigorifiques, mais qui sont de toutes sortes, ça veut dire que le petit commerce ne peut pas vous fournir les marchandises qu'il a s'il n'est pas approvisionné, excusez-moi, en permanence. Si vous allez, par exemple, changer les pneus, vous avez besoin que le pneu de votre marque soit là dans les 2 heures, et il va arriver d'un entrepôt. Avant, c'était simple, il arrivait de l'usine, il fallait attendre 15 jours ou 2 mois. Donc nous sommes dans un rapport d'immédiateté, et nous ne voyons pas comment fonctionne cette machine, où en fait on a une tête de pont par exemple de petit commerce, mais c'est pareil pour les grandes surfaces, et puis on a toute une couronne d'entrepôts qui font vivre les villes, et qui sont des plateformes d'échange, non seulement pour les denrées comestibles dont je vous parlais, mais c'est valable évidemment pour tous les produits industriels qui nous entourent et dont nous ne pouvons pas nous passer. Donc, cette réalité d'une ville invisible, on pourrait dire, ou alors qu'il est trop, peut-être, parce qu'on dit ces entrées de ville qui sont désagréables, etc., et j'en conviens fort. Mais la faute à qui ? La faute, c'est que le centre-ville est un endroit qui est policé, qui fait partie de tous les projets politiques, qui fait partie de tout l'intérêt des écoles d'architecture. Par exemple, dans les écoles d'architecture, les sujets sont des sujets, ce qu'on appelle une dent creuse, c'est-à-dire une partie non bâtie dans le centre-ville, mais le sujet d'entrepôt est quelque chose qui est totalement... C'est impudique, quelque part, de traiter de ces problèmes. Donc, de ce fait, les plans d'urbanisme sont dans le laisser-faire par rapport à cela. On va regarder la réglementation pour le moindre joint, la couleur des volets d'une cour, et puis on va laisser faire des bâtiments. Et on n'a pas à accuser, quand on n'a pas fait de réglementation et quand on n'a pas fait de planification de ces entrepôts et de ces zones extérieures qui entourent les villes, je pense que les mêmes personnes qui sont responsables de cela, je parle notamment de la profession d'urbaniste, ne peuvent pas se désoler de quelque chose dont ils sont eux-mêmes responsables. Alors, cette absence de réalisme, je crois, qui est au cœur de la pensée urbaine d'aujourd'hui. C'est pour résumer, c'est-à-dire des centres-villes qui sont hypertrophiés à la fois dans la mémoire collective comme étant des lieux très grands et qui ne le sont pas, que la même chose qui sont des lieux qui économiquement sont des lieux qui tire la croissance vers le haut quand on sait que ce n'est pas vrai, et également en démographie, qui aurait la majorité de la population et en fait de compte qui n'ont qu'une faible partie de la population. Donc on est quand même, je pense, à côté du monde réel. Donc là, je ne suis pas en train de développer une quelconque idéologie, je renvoie simplement au monde réel, et je crois que ce que je vous dénonçais, oui, le mot est peut-être un peu fort, dans la première émission, c'était le 68 qui avait amené la passion sur la raison, et je crois que nous n'en sommes toujours pas sortis 50 ans après. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien joli de critiquer, mais il y a peut-être des solutions. Mais oui, certainement, il y a des solutions. Bon, la première des solutions, c'est la réalité, et de ne pas être à côté de cette réalité. Par exemple, quand j'entends dire des ministres successifs que dans les centres-villes, il faut préserver le patrimoine, mais qui est contre ça? Nous sommes tous d'accord. Et en même temps, il faut vivre ensemble. Donc on va introduire des habitations HLM, c'est-à-dire on va construire des HLM, on va reconvertir, et également on va densifier. Et puis, pour couronner le tout, et c'est la ministre de l'écologie qui a annoncé ça il y a quelques jours, on va faire rentrer la nature dans la ville. Ça fait beaucoup de choses. Je crois que tout ça, on ne peut pas faire rentrer 5 litres dans une bouteille de 1 litre. Donc je crois qu'on a un vrai problème, et c'est d'autant plus ridicule que nous sommes un immense pays très peu bâti, et qui demanderait une politique un peu plus hardie, inventive, et pas uniquement fixée sur les centres-villes. Donc, je vais vous ramener à une vision de la ville ancienne. Disons une relecture de la ville ancienne. Parce que aujourd'hui, ce que l'on entend, c'est réinventer la ville, mais il n'y a peut-être pas la ville à réinventer. Il y a aussi de regarder comment elle s'est faite toujours, et nous sommes toujours dans des villes de toutes les époques, et on peut très bien y vivre aussi. Si vous regardez Toulouse, par exemple, mais c'est valable pour toutes les villes, mais c'est un exemple qui est près de nous, nous avons la ville qui est divisée par un axe nord-sud qui reprend le tracé approximatif, parce qu'on est quand même loin de la réalité de la ville romaine, mais surtout qui est un axe nord-sud parallèle à la Garonne. Donc il y a une partie qui était au Moyen-Âge, c'est-à-dire au moment de la création de Toulouse. C'était la partie qui était entre cet axe qui est aujourd'hui la rue Saint-Rome, la rue du Thor, la rue Saint-Rome, la rue des Filatiers, et qui continue la rue du Pharaon jusqu'à la place du Salin. C'est-à-dire que cette ligne qui n'est pas très droite, mais qui divise la ville en deux. Donc, regardez par exemple au niveau du quartier des Carmes, nous avons d'un côté ce qui subsiste de la ville ancienne, c'est-à-dire tous ces noms de quartiers, mais aussi une activité, bon, la rue du Tourneur, la rue des Marchands, plus bas la rue des Menuisiers, la rue des Filatiers. Donc, tous ces métiers qui étaient en rapport avec la Garonne, parce que la Garonne, c'était l'approvisionnement en eau pour beaucoup de métiers, c'était aussi les bateaux qui apportaient les approvisionnements, même si c'était avant les quais, et où on avait aussi les moulins au Bazac, c'est-à-dire l'énergie. Enfin, il y avait la ville était sur son fleuve, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Donc toutes les activités à la fois marchandes et à la fois les activités industrielles, artisanales plutôt, à l'époque, étaient de ce côté-là. Et de l'autre côté, vous avez le quartier de la cathédrale qui s'est, après, amélioré, on peut dire, avec le palais royal, le grand rond, le jardin des plantes, au XVIIIe siècle. Mais cette structure de la ville qui demeure, qui était une ville, disons, de l'aristocratie ou des classes dominantes avec des hôtels particuliers, a gardé son caractère d'hôtel particulier, même si la malheureuse rue aux Aisnes a cassé un grand nombre de magnifiques hôtels particuliers pour un peu aller nulle part. Mais on a cette dualité. Et cette dualité, c'est ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire, ce n'est pas la ville-centre, mais c'est la ville qui se reporte sur un axe. C'est-à-dire que les deux parties, la partie commerçante que vous avez aujourd'hui, par exemple avec la Halle des Carmes et tous les commerces, et cette partie qui a très peu de commerces, il y a quelques antiquaires, du quartier, on peut dire, du quartier riche, se retrouvent sur cet axe central qui aujourd'hui a été doublé par la rue du Languedoc et la rue Alsace, mais qui demeure central, et donc on peut dire qu'on a une continuité de l'axe entre deux quartiers qui étaient à l'époque un quartier populaire et un quartier qui était un quartier plus aristocratique, qui se retrouvaient sur un lieu commun d'échange et de commerce. Et je crois que c'est quelque chose qui demeure toujours. Donc, la vision de la ville autocentrée avec le cœur ou le cœur du quartier qui a été le modèle de l'urbanisme des ZAC, les zones d'aménagement concerté, et qui est le cœur de tous les programmes architecturaux, les programmes d'école, etc. Il faudrait développer un axe qui soit un axe collectif, commun, un axe qui c'est à la fois celui où on se retrouve de le vivre ensemble et un axe de circulation et qui donne justement, alors non pas le vivre ensemble au niveau de mélange de l'habitat, mais qui est un vivre ensemble au niveau de la relation des habitants entre eux, entre peut-être pas vivre ensemble, mais agir ensemble. Donc la semaine prochaine, je continuerai ce sujet en parlant des deux modèles d'établissement. C'était Où vivrons-nous demain ? Merci à Hugo Pépitone qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à tous et à toutes et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle numéro de Où vivrons-nous demain ?